là, cette blague-là. Je pense que c'est le temps d'être friendly, puis c'est le temps de se donner de l'amour, comme on dit. Fait que demain, c'est notre dernière en formation complète avant la pause estivale. Soyez là dès 14h.
Ça va être le fun.
T'as de l'air convaincu.
Je brûle.
En tout cas, moi, je vais avoir du fun.
Salut.
Salut, là.
La meilleure équipe parlée à Québec.
Québec.
Est à Boulevard 102.1.
Are you alive?
102.1.
Are you alive?
Salut, c'est Marceau,
Jeff Fortin
et Max Larouche,
Catherine Bachand, Antonin Iacarini
et Mathias Surcotte.
Salut, c'est Denis Gravel,
Véronique Bergeron
et Audrey Pinchot.
Nous sommes
Boulevard 102.1.
102.1.
Maintenant, 100% parler en semaine. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Bon lundi soir, on est le 22 juin 2026. Mon nom c'est Marceau, très content d'être accompagné comme à chaque lundi avec Maître Marc Bellemare. C'est la dernière de la saison. Comment allez-vous, Monsieur Bellemare?
Ça va bien. Qu'est-ce que je vais faire cet été si je te parle pas?
Ah, ben vous pourrez me texter comme vous faites à votre habitude. Je vais vous répondre assez rapidement. On se lâchera pas, là. On va être ensemble quand même. C'est juste qu'on n'aura pas l'occasion de se voir et de s'entendre à chaque lundi soir.
Oui, les textos, hein, les jeunes, hein, j'en reviens pas. Ça s'amourache en texto, ça se laisse en texto. Moi, je dis à mes filles m'écrivent toujours, j'ai trois filles, moi, puis ils m'écrivent en texto, tatatata. Puis à un moment donné, quand ça fait 4-5 échanges, là, je dis, garde, hein, le téléphone, là, c'est une belle invention. C'est chaleureux, c'est une voix humaine. Puis ouais. On dit, en l'espace de 3 minutes, on fait comme 20 textos, prends le téléphone, puis appelle-moi, j'attends ton appel. Puis là, des fois, ça vient, des fois, ça vient pas. Mais c'est vrai que les textos, c'est facile. Moi, pour une adresse, OK, à telle heure, on se voit à telle place, du small talk, là, ça va. Mais quand c'est du contenu, des textos, là, tu sais. Toi, tu fais tout en texto, 5-6 shots en ligne?
Maître Bellemare, je ne réponds plus au téléphone. Je pense que la dernière fois que vous et moi, on s'est parlé au téléphone, ça doit dater de 2 ou 3 mois, puis vous êtes mon dernier appel. Je réponds plus du tout. Je ne réponds qu'en texto et en Messenger. Et si jamais je dois appeler maintenant, j'utilise soit Messenger ou j'utilise l'application WhatsApp là, pour des amis qui sont dans d'autres pays actuellement.
Oui, bien, nous autres, on se parle 1 heure par semaine, là.
Oui.
Je comprends les textos pour avoir, on va parler de ci, on va parler de ça. On se fait quelques petits sujets pour s'assurer d'être toujours d'actualité, parler de justice, parler de politique. Mais en même temps, nous autres, on se parle, tu sais, on se parle pas au téléphone, mais on se parle, c'est encore mieux qu'au téléphone, on se parle publiquement. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les échanges avec quelqu'un, tu sais, qu'à un moment donné, là, tu sais, ça finit plus, là, tu sais, les oui, non, mais tu sais, le téléphone, c'est bien pratique, mais tu me dis, là, que tu n'as plus de téléphone, c'est ça?
J'ai encore mon téléphone, mais je ne l'utilise plus pour appeler. Maintenant, okay. Je suis que par texto, je vous dirais à 97%, je suis par texto. Sinon, avec mes enfants, je communique avec Messenger, là, un peu comme on se voit, vous et moi. Là. Donc, Messenger, c'est le même principe. C'est le téléphone, mais en plus, il y a l'image qui est associée.
OK. Bon, mais écoute, bravo. Alors, je vais suivre tes conseils.
Mais vous savez quoi? Savez-vous quoi? Il y a beaucoup de monde qui ne sont pas capables de s'adapter. Puis même en même temps, des fois, il y a des choses qui m'énervent. Ce matin, je lisais la chronique de Richard Martineau qui se pose la question à savoir si... Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de parler à une vraie personne quand on appelle au gouvernement? C'est extrêmement compliqué. Et il commence sa chronique en disant « Question quiz de même, existe-t-il dans ce vaste monde une entreprise, un ministère, une administration ou un bureau qui a recours à de vraies personnes pour parler aux gens qui appellent? » Tu sais, des vraies personnes avec un système sanguin, des corps aux pieds, des brûlements d'estomac, parce que j'en ai rôle-pompon des robots qui me disent d'utiliser mon clavier de téléphone pour rentrer la date d'anniversaire de ma grand-mère, le numéro de police d'assurance-vie de mon beau-frère et le nombre de polypes que le médecin a trouvé la dernière fois que j'ai passé une colonie colonoscopie, c'est vrai qu'il y a moins d'humains au bout du fil. Puis je vais vous donner ça, Maître Bellemare. Je vous donne plein de choses, Maître Bellemare, mais quand j'appelle chez Bellemare Avocat, ben c'est une personne humaine qui me répond pour me transférer à M. Bellemare ou encore pour prendre le message.
J'ai jamais voulu avoir des systèmes. On a, évidemment, on travaille avec le numérique beaucoup, avec des courriels, on a un site web, etc. Mais je vais te dire, là, j'ai jamais voulu que ce soit une boîte vocale qui réponde chez Bellemare Avocat. Pourquoi? Parce que je crois au rapport humain, encore de façon prioritaire. Nous, on a une clientèle particulière, des victimes d'accidents, accidents d'auto, accidents de travail, victimes d'actes criminels, beaucoup de personnes âgées, beaucoup de personnes qui ne sont pas familières avec le numérique et ça prend une voix humaine. Sinon, là, c'est plus compliqué. Des fois, ce n'est pas simple parce que si la personne a de la misère à exprimer sa situation, nous dire, écoutez, moi, j'ai été victime de telle affaire, tout ça, mais au bureau, il y a peut-être 30 % des gens qui appellent pour des divorces, des vices cachés, des actions collectives, des dossiers, des alcools au volant qu'on ne fait pas nécessairement. Donc, si tu es obligé de les rappeler, ils ne sont pas chez eux, là, ils te rappellent, ça ne finit plus. Alors, tu es mieux d'avoir quelqu'un qui répond puis qui dit bonjour, Bellemare Avocat, puis qui peut, en l'espace de 2-3 minutes, leur dire on peut vous aider ou on ne peut pas vous aider, puis les référer quelque part ailleurs. Mais les boîtes vocales, ce n'est pas toujours une bonne idée. Puis c'est sûr que c'est pour beaucoup de personnes, et je suis le premier à être dans cette situation-là, un peu comme Martineau, je trouve ça plus ou moins respectueux d'avoir des boîtes vocales. Dans une entreprise, ça va, un magasin, tu sais, une entreprise de commerce de détail, une clinique, je comprends. Mais il y a des. Ça dépend de la clientèle que tu as. Mais si tu veux vraiment servir les gens puis être chaleureux dans tes échanges, le bon vieux téléphone avec une voix humaine, c'est non seulement plus performant, plus efficace, mais beaucoup plus satisfaisant pour les gens qui téléphonent.
Ah, puis ça, c'est sans compter. Des fois, j'appelle au gouvernement, exemple. Là, je finis par tomber sur quelqu'un. Et là, je me rends compte que la personne est au service à la clientèle, mais ne parle pratiquement pas le français, comprend pas un dossier qui est assez simple. Puis je me dis, est-ce que vous pouvez me transférer? Puis là, elle me transfère, mais elle me raccroche au nez. Je suis obligé de recommencer par le processus de départ, de rappeler sur la boîte vocale pour là rentrer le chiffre 1, le chiffre 4, le chiffre 5. Ça n'en finit plus, tandis que quelqu'un qui répond au téléphone au début est capable de t'enligner à la bonne place.
Oui, oui, c'est ça. Mais je comprends pas avec... Tu sais, quand même, le service téléphonique, il y a beaucoup de gens au Québec qui peuvent faire ça, des gens compétents qui peuvent diriger le personnel. Les boîtes vocales, tu sais, déjà, au départ, on n'est pas très enclin à travailler avec le gouvernement. Tu sais, quand tu as des problèmes avec ton permis de conduire, des problèmes avec ta carte d'assurance maladie, avec l'impôt, déjà, en partant, tu es comme sur le break quand tu appelles, tu dis, bon, ça va être quoi la patente, puis qu'est-ce qu'ils vont me donner comme mauvaise nouvelle? En plus, les problèmes de communication sont importants à cause de ça. Alors, moi, je trouve que c'est inacceptable. Dans les bureaux de députés, en général, c'est quelqu'un qui répond. Alors, pourquoi quand tu communiques avec un monstre bureaucratique, la CNSST, la SAAC, pourquoi c'est toujours des boîtes vocales? Alors, ça montre finalement que notre gouvernement est pas tellement près de nos priorités. Puis les gens âgés, moi, je considère un aîné à partir de 60 ans, disons, là, ils ne sont pas familiers avec ça, puis c'est eux qui sont le plus pénalisés parce qu'ils peuvent passer des heures à pitonner et à essayer de trouver des solutions ou ils attendent que leur fils ou leur fille passe à la maison pour pouvoir les connecter. C'est complètement déshumanisé. Puis pour ce qui est de notre gouvernement, je trouve que c'est pas une fierté.
On va en parler des personnalités politiques dans les prochaines secondes, mais vous dites qu'une personne, on peut appeler une personne âgée à 60 ans. J'ai l'impression que ça a un peu été décalé, ça, parce que quand j'étais jeune, Maître Bellemare, j'ai des images de ma grand-mère. Ma grand-mère a toujours eu de l'air très, très vieille. Mon grand-père a toujours eu de l'air très, très vieux. Mais aujourd'hui, des jeunes de la soixantaine qui sont encore extrêmement actifs, même plus des fois que des jeunes de 20-30 ans, il y en a de plus en plus. J'ai l'impression que l'âge de retraite devrait être repoussé ou encore l'âge où on appelle les gens des aînés. Je vous dirais que je mettrais ça à 70, même des fois 75, là.
Ben peut-être, mais le bon barème, là, tu peux regarder les réductions quand tu vas au cinéma, puis qu'on dit que c'est moins cher. Quand tu vas un peu partout, c'est moins cher pour ci, pour ça, les spectacles, les musées.
Ouais.
Moi, je me suis pas mal à ça, puis moi, j'ai eu souvent tes 10 il y a quelques semaines. Alors, les gens, aujourd'hui, ils me le proposent. Avant ça, quand tu as 62, 63, ils ne te le disent pas nécessairement, ils sont un peu gênés de te le dire. Est-ce que vous voulez avoir le tarif senior ou le tarif aîné?
Ouais.
Mais moi, je me suis pas mal à ça, puis je pense que c'est pas mal autour de 60-65.
Ouais, ben ça se peut, j'ai donné ma carte McDor à un de mes chums qui a eu 50 ans la semaine passée, puis j'ai donné une petite carte McDor pour lui dire qu'il allait avoir un deal sur le café. Il était bien insulté à 50 ans de recevoir ça, mais la vie étant ce qu'elle est, c'est nos chums, donc on peut les insulter.
Mais moi, quand j'étais député, là, la FADOC me disait que c'était 60 ans, on pouvait avoir notre carte de l'âge d'or, je pense. Alors, ça a peut-être changé. C'est vrai aujourd'hui que les gens meurent plus, tu as raison. Les gens vivent de plus en plus vieux. Alors, le qualificatif d'aîné, il faudrait que tu appelles dans un parti politique pour savoir c'est quoi un aîné, il te le dirait. D'après moi, on est autour de 60-65, mais je me souviens quand j'étais en politique, on disait « personne âgée, il ne faut pas dire ça ». Il faut dire aîné. Il y avait tout un vocabulaire pour que ça passe mieux dans la tête des gens, pour pas que les gens disent « mais non, on n'est pas âgé, on n'est pas vieux, on est aîné ».
Maître Bellemare, pour moi, vous êtes un homme d'expérience. C'est comme ça que je dis.
Okay. Merci, c'est gentil.
On parle des personnalités politiques les plus appréciées ou encore les plus détestées des Québécois. C'est un sondage léger qui est paru dans les journaux de Québécois ce matin. Quelle surprise, Maître Bellemare, de voir le taux d'approbation à Mark Carney. C'est indécent de voir un taux d'approbation aussi élevé avec le déficit qu'on a encore une fois cette année avec le gouvernement de l'ex-gouvernement de Justin Trudeau, le Parti libéral du Canada. 60 % des gens au Québec ont une opinion favorable à Mark Carney contre seulement 28 %. C'est très surprenant. Est-ce que ça vous surprend, vous, de votre côté?
Bien, ça correspond au sondage, ça correspond à ce qu'on entend. Les gens sont rassurés avec M. Carney. Il a recentré son parti un peu plus à droite, au centre, avec des projets d'envergure dont on ne voit pas encore le bout, là, mais éventuellement qui vont se réaliser, j'ai l'impression. Je pense que M. Carney est là pour un certain temps. Là. Je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle pour les conservateurs. M. Poilievre est nettement en deçà de ce taux de popularité-là. Ouais. Les gens votent beaucoup pour le chef. Beaucoup pour le chef, sa mimique, sa façon de s'exprimer. Même si M. Carney, en français, a beaucoup de difficultés, au moins les Québécois apprécient qu'il fasse des efforts. Alors, je me souviens de John Diefenbaker en 58, 60, 62, qui a été premier ministre conservateur puis qui parlait un français absolument atroce. Mais aujourd'hui, M. Carney fait des efforts. Alors, il y a toujours la bonne clip et je pense qu'il y a, il y a le vent d'un voile et à moins de faire des erreurs importantes, là, il va se qualifier tout le temps. Tu vois, la dernière gouverneure générale, Mme Arbour, lui, il a trouvé quelqu'un de francophone. C'est une femme populaire. Il s'entoure de gens populaires. Mélanie Joly a un bon score aussi. Elle fait une bonne job. Les gens l'apprécient. C'est une femme courageuse qui fait des efforts, qui arrive avec des bonnes nouvelles, qui n'est pas trop médiatisée. Il faut faire attention aussi, hein? Il y a des gens qui sont « overexposed », comme on dit, là, qui sont tout le temps des nouvelles. Des fois, ça nuit. Mme Guilbeault, qui a été longtemps et tout le temps des nouvelles, aujourd'hui, sa cote a baissé, peut-être parce qu'on est un peu écœuré de la voir et de l'entendre, mais il y a un bon dosage au niveau média qui fait que la popularité est là, puis tant mieux pour lui. Là.
Donc, Mark Carney, la personnalité la plus appréciée des Québécois, suivie de quand même assez près, là, Christine Fréchette, qui est à 50 % contre 29 % des gens qui ne l'apprécient pas, mais 50 %. Un Québécois sur deux apprécierait Christine Fréchette. Moi, j'ai des collègues autour de moi, puis je peux vous dire que j'embarque dans la danse. Moi, je crains un gouvernement caquiste minoritaire, Maître Bellemare. Là. Il y a de fortes chances que ça arrive. Là.
Franchement, Mme Fréchette, parcours sans faute, peut-être juste la question, là, quand elle n'avait pas pu répondre, quelle est la dette du Québec, mais encore là, c'est très technique, c'est important, la dette du Québec, et bon, on peut penser qu'elle n'est pas trop au courant de ça, puis elle n'avait pas le bon chiffre à donner. Ça a mal paru dans cette clip-là qui dure à peu près 20 secondes. Pour le reste, ben, tu sais, Norvolt, c'est les décisions de Fitzgibbon puis de Legault surtout. C'est sûr qu'elle était au Conseil des ministres à l'époque, mais les gens comprennent que c'est un peu périphérique, c'est pas nécessairement sa responsabilité directe, mais depuis qu'elle est chef de la CAQ, ses interventions, sa façon de s'exprimer, le sourire à bonne place tout le temps, les réponses précises, il n'y a pas d'évitement, puis elle arrive avec des bonnes idées, elle s'est rendue en France, elle s'est rendue à Ottawa rencontrer M. Carney, elle a reçu Mme Smith ici à Québec. Alors, tu sais, moi, je pense qu'elle fait une bonne job. Et elle a le vent d'un voile. Je ne pense pas que sa cote va diminuer. Je pense qu'on va avoir une ascension de Mme Fréchette au cours des prochains mois.
Mais croyez-vous à un gouvernement caquiste minoritaire, Maître Bellemare? Vous croyez à ça?
Moi, je crois à tout. Je pense que ça va être péquiste, surtout, là, d'après moi, parce que le vote péquiste est quand même assez solide. Mais je ne sais pas ce que ça va donner, mais on a l'impression que son vote est trop réparti. On ne sait pas si ça va se manifester par des députés concrètement. Et les deux dernières annonces là, de M. Boulet et de ministre de la Culture, là, qui a des Mathieu Lacombe, qui ont décidé de quitter la semaine passée, moi, je pense que c'est un coup d'injambe. Parce qu'il me semble que Mme Fréchette s'est assurée, quand elle avait composé son conseil des ministres, il y a quelques mois, du fait que chaque ministre avait l'intention de demeurer dans les rangs pour la prochaine élection. Ah, as-tu fait faire une petite menterie, là? Est-ce que Boulet a dit oui pour rester au conseil des ministres, puis après ça, il décide de s'en aller parce que les sondages dans son comté ne sont pas bons? Ouais. Lacombe, dans Gatineau, c'est la même chose? Je ne sais pas. Mais ça, c'est sûr que ce n'est pas bon pour elle. Parce qu'il va falloir que les chefs s'entourent de belles candidatures et c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'hésitations. Je pense que la seule formation politique actuellement qui va chercher des candidats de valeur, de prestige, c'est le Parti québécois. Est-ce que ça va rester? Je ne le sais pas. Mais M. Verrette qui quitte le bateau avec les libéraux, ça c'est un coup dur aussi pour M. Milliard.
Mais est-ce qu'on y croit ça, Maître Verrette qui était quand même une super de belle candidature, il aurait pu être ministrable, il aurait pu être ministre de la Justice. M. Verrette dit qu'il n'y a plus l'énergie, là, il a 66 ans, puis il n'y a plus l'énergie pour la politique. Est-ce que vous y croyez ou c'est peut-être plus les sondages qui le fait reculer?
Écoute, quand tu dis, quand tu approches un parti politique, puis tu dis, je crois en votre chef, je crois en votre programme et je veux être candidat. Tu as 66 ans, tu n'es pas un enfant d'école, là. René Verrette, c'est un avocat d'expérience, c'est un gars qui a mené des gros dossiers, il a été à Couronne longtemps, il est encore en pratique actuellement, il offre encore ses services. Dans Louis-Hébert, qui est un comté prenable pour les libéraux, ça a été longtemps Sam Hamad qui était aux commandes. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que... Peut-être qu'une fois candidat annoncé, on y a envoyé des missions, on y a donné des mandats de développer le programme du parti, de faire des recherches, de faire des apparitions, de faire ci, de faire ça. Peut-être qu'il n'est pas d'accord avec la valse hésitation de M. Milliard sur le recours à la clause dérogatoire pour protéger les lois collectives au Québec reliées à la langue et à l'identité. Je ne sais pas sur quoi ça a pu achopper, la somme de travail peut-être, mais je suis très surpris de voir qu'un avocat d'expérience comme ça décide de dire, ben là, il y a trop d'ouvrages, ça va être trop difficile, j'ai pas l'énergie pour aller de l'avant. Peut-être des problèmes de santé aussi, mais si ça avait été le cas, il nous l'aurait dit. Alors, je ne sais pas, ça montre que M. Verrette n'a pas évalué correctement sa mission. Et que finalement, l'intérêt n'y est pas. Mais moi, ce que ça me fait dire, c'est que c'est de plus en plus difficile de recruter des candidats d'expérience et de qualité. Et la politique s'intéresse de moins en moins les gens, mais ça aurait été une belle fin de carrière pour M. Verrette que d'aller de l'avant. Je ne sais pas, peut-être qu'on ne le saura jamais parce qu'il n'a pas été exposé publiquement trop longtemps. Et les libéraux, ils sont capables de garder des secrets, là, j'en sais quelque chose. Alors, mais ça nous montre là, finalement que pour Louis-Hébert est encore un comté prenable pour le Parti québécois. Puis je pense que c'est de ce côté-là que les meilleurs candidats se sont présentés jusqu'à maintenant.
Maître Bellemare, pour ce qui est de Charles Milliard, c'est assez particulier pour ce qui est de Charles Milliard. Là, 33 % des gens l'apprécient au Québec et 25 % des gens ne semblent pas l'apprécier. C'est le déficit là, de popularité qui est là à 42 % La pente est extrêmement à pic pour ce qui est de Charles Milliard, alors qu'on l'annonçait comme un chef en grande pompe, là, comme quoi il allait redéfinir le Parti libéral du Québec. Je pense qu'il croyait au départ là, qu'il allait être capable de le faire, mais visiblement, ça n'arrivera pas, probablement pas avant les prochaines élections.
Bien, le sourire ne suffit pas. Hein? Il est tout le temps souriant, une belle dentition, un beau monsieur. C'est sûr que ça fait son temps. Mais il semble que les gens apprécient davantage le sourire de Mme Fréchette que le sourire de M. Milliard. Et là, ce qui s'est produit avec la mise en demeure au PQ nous montre qu'il y a, je ne sais pas qui le conseille, mais écoute, moi je suis avocat depuis 47 ans. Quand un client me dit « je veux envoyer une mise en demeure à telle personne », mise en demeure, c'est une menace de poursuivre. Hein? Mm-hmm. Je veux envoyer une mise en demeure à tel assureur qui ne veut pas me payer. Si la personne n'est pas intéressée à aller de l'avant dans le cadre d'une poursuite formelle, je ne l'envoie pas la mise en demeure. Pourquoi? Parce que tu as un problème de crédibilité comme avocat. Tu envoies « ah, Bellemare, il envoie des mises en demeure, puis il ne donne jamais suite à ça, c'est juste… » Il fait juste japper, il ne va pas de l'avant avec une vraie poursuite. Alors, tu as un déficit de crédibilité comme avocat parce que tu ne donnes pas suite à tes menaces de poursuite parce que ton client a choqué. Alors, moi, je ne fais jamais de mise en demeure à moins d'avoir un mandat formel d'aller en cours avec ça dans une poursuite régulière, formelle. Voici qu'un chef de parti, dimanche, il y a deux fins de semaine, il y a une dizaine de jours, grosse conférence de presse, un dimanche, pour annoncer qu'il met en demeure Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a fait une association, selon ce qu'il prétend, entre le crime organisé et le Parti libéral du Québec. Là, la grosse affaire, il y a du monde autour, on a consulté, on est écœuré, puis on va défendre notre réputation. On donne 72 heures. PSPP, avant même que la conférence de presse soit faite, décide d'annoncer qu'il ne se rétracte pas puis qu'il lui, il est mort de rire parce qu'il amène milliards sur le terrain de la corruption qui n'est pas un terrain très, très favorable au niveau des libéraux. Plus on en parle, plus il coule d'un sondage. 72 heures après, ils ont regardé ça et ont décidé de ne pas poursuivre. C'est quoi cette affaire-là? Moi, je trouve que ça montre un manque de planification. Ça a été une mauvaise idée. Puis ça a pris une semaine avant qu'ils nous annoncent ça. Fait que pendant une semaine, dans la tête des gens, il y avait cette idée là, de poursuite, puis etc. Alors, pourquoi ils ne poursuivent pas? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on en parle trop souvent, parce qu'ils ne veulent pas que ça traîne dans le décor en campagne électorale prochaine, l'aspect financement corruption. Pourquoi? Parce qu'il y a peur que dans le cadre d'un procès, il soit obligé de répondre à des questions, de produire des documents qui pourraient alimenter peut-être la thèse péquiste à l'effet que le financement libéral et illégal voit certainement douteux. Alors, il décide de ne pas y aller, mais moi, je trouve que ça a été une mauvaise stratégie, puis ça montre qu'il manque de guts, puis son parti manque de guts.
Maître Bellemare, vous avez eu une expérience politique, une certaine expérience politique, vous avez vu comment ça se passait à l'interne. Dans le cas de Charles Milliard, pour l'avoir reçu régulièrement à cette émission-là, avant qu'il devienne chef du Parti libéral du Québec, il me mentionnait que c'est lui qui allait diriger le parti une fois qu'il allait avoir les clés de l'autobus. Et visiblement, moi, j'ai pas cette sensation-là qui dirige le Parti libéral du Québec, Charles Milliard. J'ai l'impression, puis là, l'image que je vais faire, vous ne l'aimerez pas, puis l'image que je vais faire de lui, il ne l'aimera pas, ni même probablement les gens qui nous écoutent à Montréal ou à Québec. Mais j'ai l'impression que Charles Milliard, c'est un peu le caniche de service qui est au profit du Parti libéral du Québec, alors qu'il m'avait dit le contraire, que c'est lui qui allait diriger le Parti libéral du Québec. C'est-tu une bonne image, ça, le caniche de service des grosses têtes au Parti libéral?
Peut-être, parce que jusqu'à date, c'est très cosmétique, son intervention. Et moi, je pense qu'il y a trois points sur lesquels il a pris des mauvaises décisions. La première, c'est de ne pas intégrer spontanément Mme Risky au moment où il est arrivé. Ouais. On se souvient de ça. La politicienne, une des politiciennes les plus populaires du Québec, encore aujourd'hui.
C'était la politicienne la plus populaire.
C'est ça. Alors, chez les libéraux, c'est difficile à battre, libéraux provinciaux. La deuxième, c'est sa valsification concernant le recours à la clause dérogatoire pour s'assurer de protéger les lois les plus populaires du Québec, donc la loi linguistique et la loi 21 sur l'identité. La troisième, ça a été cette histoire de mise en demeure qui a fait patate, une espèce de pétard mouillé qu'il a lancé lui-même et auquel il n'a pas donné suite la semaine dernière. Fait que jusqu'à maintenant, on a un manque de contenu du côté libéral, de bonnes idées, de nouvelles idées. Et je pense que c'est pour ça que les candidats ne se poussent pas aux portes. Là. Puis c'est peut-être une des raisons qui fait que M. Verrette a décidé de retirer sa candidature. Ce qui est pire encore que de laisser croire qu'on va y aller puis finalement de ne pas y aller, c'est d'annoncer officiellement sa candidature avec le chef puis après ça de se désister avant même que la campagne électorale ne soit commencée. Fait que non, ça ne va pas bien pour M. Milliard. Puis là, écoute, on est rendu, on est le 22 juin. Il y aura un 22 juillet où tout le monde va être au barbecue au bord de la piscine. Il y aura un 22 août où tout le monde va être en fin de vacances. Puis après ça, on va rentrer en septembre très rapidement en campagne électorale solide. Normalement, la campagne dure 33 jours au Québec. Alors pour M. Milliard, il a brûlé des belles cartouches là, avant de partir en vacances. Puis ça sonne pas bien pour lui. Je ne suis pas sûr à l'heure actuelle là, que ça sonne beaucoup pour des candidatures de prestige qui pourraient lui donner des comtés dans le Québec francophone. On comprend que la concentration de sa députation est beaucoup à Montréal, puis je ne pense pas que de ce côté-là, il soit vraiment menacé. Mais du côté du Québec francophone, je ne pense pas que les sondages... Je ne pense pas que dans les chaumières, on soit très, très, très axé sur le Parti libéral du Québec et sur son chef, M. Milliard.
Donc, Maître Bellemare, comme premier sujet, on avait parlé des politiciens les plus appréciés au Québec par les Québécois. C'est un sondage léger. Maintenant, on parle du score d'appréciation les moins élevés avec des différentiels qui sont épouvantables. Pierre Poilievre est à moins 38, Maître Bellemare.
Ouais.
Moins 38 et suivi de près à moins 31 par Éric Duhaime. Qu'est-ce qui fait que les Québécois, le Parti conservateur du Québec ou du Canada, ça passe pas?
C'est un peu malheureux, je sais pas. C'est sûr qu'ils n'ont pas la même antenne que tu sais, je regarde la tendance éditoriale à Radio-Canada, la presse, tout ça, les médias montréalais beaucoup. Il y a une antenne qui est beaucoup plus axée sur la gauche, le centre-gauche, là, les sujets qui sont abordés, etc. On n'a pas vraiment, peut-être plus à Québec, là, un éditorial radio-média qui est plus au centre et qui donne de la place, du temps d'antenne aux chefs conservateurs, que ce soit M. Duhaime ou que ce soit M. Poilievre.
À Québec, c'est plus à Québec, c'est plus conservateur. Montréal, je vous dirais qu'il n'y a rien de conservateur là-bas. Là.
Non, c'est ça. Puis je n'ai pas l'impression qu'on accorde le temps qu'on devrait accorder aux chefs des deux partis conservateurs, que ce soit Poilievre ou que ce soit M. Duhaime. C'est sûr que ça n'explique pas tout. Mais je pense que même si on dit que les chefs sont moins populaires, je pense que ça va avec le reste. Là. Quand tu dis que Mme Fréchette est très populaire, ben ça nuit à M. Duhaime parce que c'est très populaire, forcément que ça va nuire aux autres partis. Tu ne peux pas être aussi populaire que les gens qui sont plus populaires que toi. M. Poilievre, ben lui, c'est un peu le contre-coup de Carney et de sa popularité. Il ne peut pas être aussi populaire que Carney. Si Carney est si populaire, ben forcément que ça laisse moins de place en termes de popularité à M. Poilievre, qui est le chef de l'opposition. Et on verra bien ce que 2026-2027 nous réserve. Est-ce que M. Poilievre va rester en selle? Ça, c'est la grande question. On ne sait pas. Mais avec un gouvernement incarné majoritaire de cette popularité-là, c'est normal que M. Poilievre soit en déficit de popularité. Mais personnellement, je trouve qu'ils ont des bonnes idées à plusieurs égards, même que la plupart de leurs bonnes idées, les plus importantes, ont été volées systématiquement par les libéraux.
Ouais.
M. Duhaime, c'est difficile à comprendre comment ça se fait qu'on lui donne un taux de popularité aussi bas. Alors que dans les sondages nationaux sur les intentions de vote, le Parti conservateur fait quand même bonne figure. C'est sûr que tu peux des fois aussi être moins populaire que ton parti. Le parti peut être plus populaire que toi. Je pense que c'est le cas de M. Milliard aussi. Il ne faut pas confondre les deux. Les gens votent beaucoup en fonction d'un chef, mais ils votent aussi en fonction d'un programme et d'un parti. Alors, on verra bien comment tout ça va se résumer dans l'isoloir au mois d'octobre prochain, mais je pense que malgré ce que nous annonce le Journal de Québec, le Journal de Montréal aujourd'hui, avec la popularité en baisse pour M. Duhaime notamment, je pense que quand même son parti fait bonne figure et certainement meilleure figure qu'à la dernière élection. Fait qu'il devrait se retrouver avec quelques députés à l'Assemblée nationale. Je pense que Québec 125, il donne 7 ou 8 députés.
Autour, hein?
Alors, c'est quand même pas si pire.
Parce que le secteur de Montréal, on ne se le cachera pas, là, c'est très libéral et dans la grande région de Montréal, c'est très parti québécois. À Québec, de ce que j'ai regardé ce matin, on est dans le Parti conservateur du Québec, on est dans le Parti québécois, il y a un peu de libéral aussi. Voyons voir les prochaines élections. Et en position numéro 3, parmi les candidats les moins appréciés des Québécois, va falloir me l'expliquer, celui-là, parce que Bernard Drainville, quand je le vois à travers les médias, j'ai un petit peu plus de difficultés. Quand je le rencontre en personne, c'est vraiment quelqu'un de vraiment fantastique. Bernard Drainville serait un des trois politiciens les plus détestés des Québécois, Maître Bellemare. Je me l'explique mal.
Ouais, moi aussi. Puis ça, Zanetti au Québec solidaire aussi, parce que, écoute, on peut ne pas être d'accord avec certaines de leurs idées. Il ne faut pas confondre. La prestation d'un politicien, c'est quoi? Sa capacité de s'exprimer, sa capacité de répondre franchement aux questions, le fait qu'il fasse pas d'évitement, qu'il ne s'esquive pas, qu'il réponde franchement, un bon communicateur. Et je pense que Sol Zanetti fait un excellent travail de ce côté-là. On peut ne pas être d'accord avec ses positions, mais il n'a jamais refusé d'aller au bat. Il y a toujours des positions tranchées. Et Bernard Drainville a fait une bonne campagne aussi. J'ai beaucoup de difficultés avec ce sondage-là. Je ne sais pas sur quoi on s'est appuyé puis comment on a sondé, mais c'est assez particulier de voir que Drainville ne serait pas plus populaire que ça, alors qu'il a quand même passé assez proche de devenir le premier ministre du Québec. Là. Alors voilà, il y a du questionnement. Ce n'est pas ce que j'entends sur le terrain, mais je n'ai pas de raison de douter de la méthodologie de ce sondage-là.
Non, c'est ça. C'est quand même, on a posé la question au-dessus de 1000 Québécois, donc 1022 répondants âgés de 18 ans et plus à travers le Québec dans son entièreté. Geneviève Guilbeault aussi arrive parmi les personnes les moins appréciées des Québécois. C'est une étoile qui a pâli, mais qui était au firmament. Là. Très rapidement, Geneviève Guilbeault a grimpé tous les échelons jusqu'à devenir vice-première ministre du Québec. Si vous voulez mon avis, à moi, elle n'avait pas le CV pour être vice-première ministre du Québec, mais on l'a mis en place pour ce qu'elle avait de l'air. Et elle était tellement bonne communicatrice qu'on s'est dit, avec elle, le message va bien passer. Puis malheureusement, aujourd'hui, elle ne repasserait même pas dans sa propre circonscription. Là. Les gens ont de la difficulté avec elle.
Oui, c'est ça. Je la vois encore, l'image qui reste de Mme Guilbeault, c'est les cartables là, quand elle se présente pour dire on va laisser faire le troisième lien avec les cartables de quoi un demi-mètre d'épais là, à rendre comme pour montrer qu'elle travaillait fort. Ça, cette espèce de clip visuel, là, poche, là, tu sais, qui de donner l'impression qu'on a travaillé fort, puis finalement, on en vient en conclusion qu'on va abandonner le troisième lien à 6 mois d'élection. Et on a vu ce que ça a donné avec le PQ qui arrive dans Jean Talon avec un nouveau député avec une dizaine de milliers de voix de majorité. Alors, les Québécois n'ont vraiment pas apprécié le recul du gouvernement. Qu'on soit contre ou pour le troisième lien, c'est promis puis c'est pas livré. Fait que les gens, il y a des gens qui ont voté contre la CAQ simplement parce qu'ils ne livraient pas cette promesse-là. Même certaines personnes qui étaient contre le troisième lien ont voté contre la CAQ parce qu'il reniait ses promesses. Et ça, les Québécois, des promesses non tenues, là, ils en ont plein le casse. Les politiciens qui promettent puis qui ne livrent pas, ça donne une très mauvaise image. Mme Guilbeault est associée à ça. Avec sa clique par la suite, son témoignage complètement déglingué devant la commission Galland. Alors,
Maître Bellemare, là, quand on a écouté la commission, on a eu l'impression que Geneviève Guilbeault s'était parjurée. Quand on se parjure, normalement, on se ramasse avec des problèmes par la suite. Sur quoi on s'est basé pour dire ben c'est parjuré, mais c'est peut-être trompé?
Ben, c'est ça. Quand c'est pas clair, là, tu peux pas. Un parjure, c'est c'est de sciemment dire un mensonge qui va tromper le tribunal, c'est ça. C'est que tu... on se souviendra là, dans le fameux procès qui avait eu lieu à Québec, là, l'assassinat de l'attaché politique de M. Béchard. Là,
Francis Proulx,
qui avait été accusé. Il y avait un expert, le docteur Morissette, un psychiatre de Montréal qui était venu témoigner à Québec en disant « j'ai pas ci, j'ai pas ça ». Puis finalement, on avait prouvé qu'il avait écouté les témoignages, puis qu'il avait, etc.
En fait, c'était le contrat, Maître Bellemare. Je ne vais pas vous reprendre, mais c'est parce que dans l'histoire, c'était Nancy Michaud qui avait été tuée. Et l'homme qui était accusé, c'était Francis Proulx. Et ce psychiatre-là avait mentionné avoir écouté les cassettes dans sa voiture en descendant, alors que les cassettes n'étaient pas disponibles à ce moment-là. Donc, il a sciemment menti.
Oui, c'est ça. Mais finalement, il n'a pas été... Il a été acquitté parce qu'il avait dit que c'était une erreur de bonne foi, qu'il s'était trompé, etc. Puis je pense que Guy Lafleur aussi avait été accusé de son vivant de parjure dans le
dossier de
ses fils, Marc, je pense, ou en disant que bon, il devait le recevoir chez lui ou je ne sais pas trop. En tout cas, peu importe. Il reste que c'est très difficile de prouver qu'il y a eu véritablement un parjure. Souvent, on va dire ben c'est un problème de mémoire, c'est un problème, bon, on ne croit pas la personne parce qu'il y a trop de contradictions, mais c'est pas nécessaire. On n'est pas capable d'établir hors de tout doute le fait que la personne a véritablement planifié de tromper sciemment le tribunal. Alors, c'est pour ça que des accusations de parjure, il y en a très rarement, et des condamnations encore moins.
Maître Bellemare, il y a une cause que je suivais depuis déjà quelques années. Heureusement, c'est quelque chose qui a une belle fin, parce que ça fait depuis le début des années 2000 que j'avais entendu parler de cette cause-là. Et ce matin, il y a un dénouement qu'on peut lire au travers du soleil. J'essaie d'ouvrir ma page, là, je sais que ça paraît pas. c'est 195 millions de dollars qui ont été donnés à des citoyens de la ville de Shannon, dans la grande capitale nationale. Shannon, c'est au nord de Québec, c'est juste au-dessus de Val-Bélair. Et depuis des années, on disait que les nappes phréatiques avaient été contaminées au TCE. Donc, c'est un produit qui sert à nettoyer de l'armement, entre autres. Et on a réussi à prouver que des citoyens de Shannon avaient été intoxiqués par le fameux TCE qui venait de la base militaire. Maître Bellemare, ça touche environ 3000 personnes, 3332 citoyens qui ont été indemnisés dans cette affaire-là pour un total de 195 millions de dollars, Maître Bellemare. Et si je fais le calcul mental en faisant des chiffres ronds, c'est autour de 60 000 dollars par citoyen que les gens ont reçu en argent. Mais c'est pas suffisant, Maître Bellemare. Il y a des gens qui sont morts du cancer du cerveau en raison de l'eau qu'ils buvaient dans le secteur de Shannon. 60 000 $, je trouve que c'est pas cher payé, là.
C'est vrai, hein? Mais c'est ça. 195 millions, il y a tellement de gens qui sont visés que finalement, ça donne peu de choses à chacune des victimes. Mais c'est l'avocat Charles Veilleux qui a mené ce recours-là, qui a toute mon admiration pour avoir réussi au moins à obtenir une compensation.
Docteur Junot qui est là-dedans depuis le tout début. J'avais acheté un chalet à l'époque à Shannon, Maître Bellemare, c'était au début des années 2000. Puis Docteur Junot était venu me voir personnellement pour me dire, bien, pour se présenter de un, et après ça, dire « ne bois pas d'eau, c'est de l'eau contaminée par la base militaire de Valcartier ».
Ah, c'est ça. Alors, imagine-toi les gens qui ont subi des dommages, il y a des décès là-dedans, des cancers, toutes sortes de choses. Alors, écoute, c'est sûr que, compte tenu de l'ensemble des membres du groupe, le montant peut paraître important, mais selon qu'il y a eu des décès, parce qu'au bout de la ligne, les recours collectifs, c'est toujours un peu de la même manière que c'est réglé, c'est-à-dire que tu as un groupe de personnes qui correspondent à la définition, donc les gens qui ont subi des dommages physiques, psychologiques, des décès en lien avec la contamination au TCE, etc., et là, il y a, au bout de la ligne, on doit vérifier le degré de contamination, les conséquences que ça a eu sur la santé. Est-ce qu'il y a des dommages psychologiques? Est-ce qu'il y a des dommages physiques? Est-ce qu'il y a des décès? Est-ce qu'il y a des cancers? Le type de maladie, etc. Et à ce moment-là, il y a un montant qui est versé pour chacune des personnes. Mais au moins, ça a donné des résultats. Puis ouais. Je pense que s'il y avait eu des actions individuelles plutôt que qu'une action collective pour l'ensemble des membres du groupe, ça aurait coûté plus cher, ça aurait été plus long et ça aurait été à peu près impossible pour chacune des personnes de faire la preuve d'expert qui permet de faire le lien entre le TCE et les dommages, parce qu'il faut toujours penser que il y a personne qui nie les dommages qui ont été causés, mais souvent c'est très difficile sur la base scientifique de faire la preuve entre ce qu'il y a dans l'eau et les dommages que les gens ont vécu. Alors, dans ce cas-ci, ça a été reconnu, ce qui est au moins ça. Là, je pense que c'est la Cour d'appel qui l'avait fait dans un deuxième temps.
Ce qu'on comprend, c'est que Maître Veilleux, qui était l'avocat dans le dossier, a réhypothéqué deux fois sa maison pour réussir à passer au travers de ce recours collectif-là.
Non, c'est pour ça que je te dis qu'il y a toute mon admiration, parce que les recours collectifs, là, c'est un vaisseau amiral. Et il faut comprendre que quand tu vas, comme par exemple le recours collectif contre les compagnies de tabac, là, je donne ça un exemple parce que c'est un peu similaire. Dans les deux cas, c'est du poison que les gens ont ingurgité, qui ont été, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans l'air, et un produit là, qui a causé un dommage important aux personnes, de type cancer la plupart du temps. Et pour l'avocat, c'est tout un bateau à mener. Et il faut comprendre aussi que souvent, il y a des centaines de personnes qui sont associées au recours collectif. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils appellent au bureau d'avocat, ils veulent avoir de l'information. Comment ça se fait que c'est si long? Combien je vais avoir? Quand? Je suis obligé de vendre ma maison? Je n'ai pas d'argent? Il y a toute une gestion qui doit se faire par rapport au groupe de personnes que l'avocat doit assumer s'il veut garder le contrôle de son groupe. Alors que les défendeurs, eux, qui défendent les municipalités, les entreprises, bien, ils ont des bureaux d'avocats qui payent chèrement, mais qui ont les moyens de payer parce que c'est des institutions, des corporations. Et l'avocat qui mène le bateau pour les victimes, lui, il n'est pas autant en moyen que les défendeurs qui sont des institutions cossues et très bien organisées.
On regarde les normes au Québec, là, puis au niveau de la municipalité de Shannon, quand on regardait le TCE par litre, normalement, au Québec, on tolère 5 microgrammes par litre d'eau. Et dans le cas de la municipalité de Shannon, c'était 71 000 microgrammes de TCE par litre. Et les gens buvaient cette eau-là, Maître Bellemare. C'est atroce. Puis la base militaire de Valcartier ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant. Il savait très bien qu'il était au courant, qu'il contaminait la nappe phréatique, là.
Oui, oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais, souvent, il y a une preuve comme quoi, dans les causes de ce type-là, il y a une preuve comme quoi il y a des blessures qui ont été subies, physiques ou psychologiques, qui n'est pas contestée, tu sais. Il n'y a personne qui va dire « tu n'as pas le cancer » quand les tests te démontrent qu'il y a un cancer. De l'autre côté, il n'y a pas grand monde non plus qui conteste le fait qu'il y ait des contaminants dans l'eau. Mais c'est le troisième point qui est plus difficile à prouver. C'est le lien entre l'eau contaminée et le cancer. Et c'est là que tu as des preuves d'experts qui s'ostinent. Tu as toujours des experts qui vont dire non, c'est pas le type de cancer auquel on s'attendrait compte tenu de la contamination. L'eau contaminée est à faible niveau, c'est pas si grave que ça. Il n'y a pas d'études qui démontrent une relation entre l'eau et le dommage subi. Alors souvent, c'est là que ça va être publié. Les travailleurs accidentés aussi qui vivent ce type de problème-là, moi j'en ai au bureau là, des gens qui ont eu des cancers, puis qui ont travaillé dans un environnement où il y avait plein de cochonneries qui ont respiré pendant des années. Et souvent, ce qui achoppe, c'est le lien. Hein? C'est ce qui est contesté, ce n'est pas la blessure, ce n'est pas le fait qu'il y ait de la cochonnerie dans l'air, c'est le fait que ce soit relié les deux ensemble. Alors, c'est souvent des batailles d'experts qui doivent être remenées. Puis à ce niveau-là, il y a une question de coût qui embarque. Il faut être capable de financer ces expertises-là, les recherches, les témoignages, les écrits, l'expert doit s'appuyer sur des études qui ont été produites dans le monde entier avec de tels contaminants. Des fois, il n'y en a pas. Alors, c'est pour ça que ça a été si long dans ce cas-ci, mais au moins, il y a des résultats.
Pour une dernière fois cette saison-ci, avant les vacances, bien, on est avec Maître Bellemare comme à chaque lundi. On va reprendre ça la prochaine saison sans aucun problème. Maître Bellemare, c'est un avocat spécialiste pour ce qui est des dossiers de SAC, d'IVAC, de Saint-Nécesté. C'est aussi un ex-ministre de la Justice. On fait une courte pause, Maître Bellemare, puis on revient tout de suite. Ça vous va?
Très bien. Parfait.
Marceau, le soir. Avant même le podcast, il y avait Marceau le soir. Du lundi au jeudi, 18h, Marceau parle avec du monde.
J'en ai connu.
Du monde quand même assez intéressant.
Oui, oui, bien sûr.
Des politiciens, des acteurs de l'actualité, des experts, des avocats, des musiciens, des professionnels. Et même des inconnus qui ont quelque chose à dire. Mais avant tout, des humains, des émotions, des histoires. Marceau le soir, à Boulevard. 102-1.
Chapeau Ben, des produits de qualité à prix de liquidation. Des nouveautés chaque semaine. Québec, Saint-Georges, Lévis et chapeauben.com. Chapeau Ben, des marchands de bonheur.
Envie de découvrir le monde fascinant des hélicoptères? Le 27 juin, Attitude Hélicoptère vous ouvre ses portes à Neuville. Visitez nos installations, nos hélicoptères et vivez même un baptême de l'air. Une journée à ne pas manquer. Plus de détails sur nos réseaux sociaux, Attitude Hélicoptère.
Passez à l'électrique avec le Ford Mustang Mach-E 2026 chez Desjardins Auto Collection.
Traction intégrale, écran de 15,5 pouces, technologie d'aide à la conduite Ford Copilote 360 et autonomie électrisante. Vraiment, tout y est.
Et le plus impressionnant, louez-le à seulement 125 $ par semaine avec 0 $ d'acompte. Profitez aussi des économies d'essence et d'entretien.
Seulement 125 $ par semaine chez Desjardins Auto Collection.
À BDC, on ouvre les portes de la défense aux petites et grandes entreprises. Parce qu'une botte fabriquée ici peut donner le rythme à toute une mission. Avec notre acier, on renforce notre présence en mer. Et avec l'intelligence artificielle, nos données passent à l'action. Parce que la meilleure défense commence avec nos produits canadiens. Pour du financement et des conseils, bdc.ca/défense.
On coupe l'aspirateur. On coupe les jeux vidéo. La télé. La tondeuse du voisin. On ajoute un ruisseau. Des écureuils qui se courent après. On ajoute des souliers dans la garnotte. Et des enfants heureux. Ah. Bouger en plein air, ça coupe le chaos et ça ajoute du bonheur. Un message du gouvernement du Québec.
Vous êtes électricien. Détenez une licence C. La raffinerie Jean-Gaulin de Lévis recrute. Le 15 juillet en soirée, venez découvrir le poste de technicien en raffinage. Un rôle unique qui combine électricité et opération au cœur d'un environnement industriel dynamique. Rencontrez nos équipes, explorez nos installations et voyez concrètement à quoi pourrait ressembler votre avenir chez Valero. Une expérience en industrie est un atout, mais votre motivation à apprendre compte tout autant. Réservez votre place dès maintenant en écrivant à courrier@commercialvalero.com.
Les 27 et 28 juin, la fin de semaine de la famille vous attend à la baie de Beauport. Jeux gonflables, maquillage, spectacle canin et activités gratuites pour petits et grands. Tous les détails sur baiedebeauport.portquebec.ca. Besoin de cèdre pour vos projets extérieurs? Le cèdre de l'Ouest et le cèdre du Québec sont en vedette chez Limaco. Particulier ou entrepreneur, Limaco a un vaste choix de cèdre à très bon prix. Limaco, spécialiste en vente de bois depuis plus de 25 ans. Limaco.ca.
Le concours Gros Gouane est toujours en cours chez Volkswagen Saint-Nicolas. Jusqu'au 30 juin, procurez-vous votre nouveau Volkswagen Tiguan 2026 et obtenez automatiquement une participation au concours pour courir la chance de gagner plus de 2 500 $ en prix. Deux autres gagnants remporteront également l'une des deux cartes cadeaux de 500 $ chez Magasin de la Tulipe. Passez-nous voir dès aujourd'hui chez Volkswagen Saint-Nicolas. Détails du concours en ligne ou directement en concession, certaines conditions s'appliquent.
Déjà plus de 40 000 visiteurs ont vécu la magie d'Aura à l'église Saint-Roch. Cet été, plongez dans une expérience immersive spectaculaire alliant lumière et musique. De nouvelles représentations ont été ajoutées. Réservez vos billets dès maintenant au auraeglisesaintroch.com.
L'application Boulevard. Dans une poche près de chez vous. Poche de jeans. Poche de shorts. Puis même ta poche d'hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
Maître Marc Bellemare est avec nous comme à chaque lundi. Maître Bellemare, vous pouvez le rejoindre chez bellemareavocat.ca. Combien d'avis Google vous avez, Maître Bellemare, là, sur le site de bellemareavocat.ca? Est-ce que vous avez de bons avis?
Oui, aux dernières nouvelles, j'en ai à peu près 380.
Oui.
Je vais aller vérifier ça ce matin avant qu'on se parle. Et... c'est 4.8, c'est très bon. En tout cas, c'est un bon rating si je me fie à ce qu'on voit un peu partout sur Google. Les gens sont contents. Et évidemment, on n'a pas de contrôle. Et souvent, on ne sait pas. Moi, je reconnais des fois les clients, des causes gagnées, des gens qui vont sur Google pour dire « Merci, Maître Bellemare, vous avez gagné ma cause, etc. » Puis ouais. Je les reconnais. Des fois, on ne sait pas c'est qui. J'ai eu un avis Google favorable la semaine passée d'un homme qui dit « Ma femme a été très bien servie, elle est très contente, 5 étoiles pour Bellemare Avocat. » Mais je ne sais pas à quel avocat elle a parlé. Est-ce que c'est à Bruno, mon fils, ou c'est à moi? Je ne sais pas. Mais des fois, il y a des avis négatifs aussi qui sont heureusement assez rares, mais on ne sait pas c'est qui écrit. Alors, on n'est pas capable d'associer ça à un bureau. Alors, n'importe qui peut aller sur Google. C'est pour ça que la Cour d'appel, dans un jugement récent là, qui était rendu au début du mois de juin, a refusé une poursuite d'un avocat qui estimait avoir été victime de diffamation dans un avis Google de la part d'un client qui avait été poursuivi pour non-paiement de facture. Alors, la Cour d'appel dit « Le demandeur fait fausse route en plaidant qu'un grand poids doit être accordé au contenu de telle review », c'est-à-dire les reviews sur Google. La grande majorité des personnes qui consultent la plateforme savent que les reviews ne sont pas objectives, mais qu'il s'agit d'expériences hautement subjectives de la part de certaines personnes. Bref, il est difficile, voire impossible, de déterminer qui dit vrai sur une plateforme comme Google Review, écrivait le juge narrant dans son jugement. La Cour d'appel a confirmé ça en disant que les propos sur Google qui étaient contre le procureur étaient inappropriés, mais pas diffamatoires. Ce que la Cour d'appel nous dit en réalité, c'est que ça se pourrait dans certains cas que ce soit diffamatoire, mais sur l'avis Google, ça avait été écrit que les gens qualifiaient la personne d'escroc et l'accusaient d'avoir volé de l'argent. Alors, évidemment, Google doit être bien content du jugement parce qu'eux autres, ils veulent des avis à plein. Ils veulent que les gens se promènent puis mettent des étoiles, une ou quatre ou cinq ou peu importe. Mais pour cette personne-là qui n'a pas gagné sa cause, moi, je pense que traiter quelqu'un d'escroc sur une plateforme comme les avis Google, ça devrait être de la diffamation, à moins que tu sois puisse prouver que c'est véritablement un escroc. Mais la Cour d'appel n'a pas voulu marcher là-dedans parce que ça semblait être un avis. Donc, en disant, ces avis-là, il faut en prendre puis en laisser. C'est populaire, les gens vont là-dessus, mais il ne faut pas prendre ça pour du cash. C'est une question de perception, c'est-à-dire la personne sent qu'elle a été victime d'une escroquerie, donc elle fait un avis négatif, mais c'est pas, faut laisser passer. Alors, je sais pas ce que tu en penses. Ben, moi, personnellement, je trouve que escroc, c'est quand même un terme. C'est certainement pas parlementaire. Si c'est pas parlementaire, c'est que c'est pas poli. Si c'est pas poli, ben là, écoute, c'est quand même assez grave.
Oui. Mais je trouve ça intéressant comme discussion parce que grâce à vous, j'ai appris énormément de choses dans les dernières années. Puis ça fait des années qu'on collabore ensemble. Puis à chaque semaine, j'apprends quelque chose de nouveau. C'est la raison pour laquelle j'apprécie travailler avec vous, Maître Bellemare. Mais vous m'aviez déjà raconté que pour ce qui est de la diffamation, ça n'a pas besoin d'être un mensonge là, pour être accusé de diffamation. Parfois, ça peut être vrai et on peut être accusé et déclaré coupable d'avoir fait de la diffamation parce qu'on voulait nuire intentionnellement à quelqu'un en racontant une histoire, exemple, qui n'avait pas été dite depuis genre 20 ans.
Oui, exactement. Tu peux faire de la diffamation même en racontant quelqu'un de vrai, quelque chose de vrai si ce n'est pas pertinent et tu fais juste ça pour essayer de nuire à la personne. Ramener des histoires antérieures qui ne sont pas pertinentes, mais qui peuvent permettre de colorer, si tu veux, ou de peinturer dans le coin une personne de façon défavorable. La diffamation, c'est pas quelque chose de simple. Puis ici, on en a un bel exemple encore, hein, quand la Cour d'appel nous dit ben, « escroc sur Google », alors qu'il y a, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur Google voir les avis. Moi, j'en parlais à des jeunes il n'y a pas tellement longtemps. « Allez-vous sur Google pour voir ce qu'il y en a? » Puis beaucoup de jeunes, surtout de 30, 40 ans, 20 ans, me disent « Moi, je ne vais jamais dans un restaurant sans aller chercher les avis Google. Je ne vais jamais dans un hôtel sans aller chercher les avis Google. » Je ne sais pas si c'est ton cas, mais ça semble être une référence. C'est sûr qu'on peut dire à défaut d'en avoir d'autres, là. Mais ça semble être une référence fiable pour beaucoup de consommateurs québécois aujourd'hui.
Oui, je regarde pas vraiment ça, honnêtement. Je regardais, pour ce qui est des critiques de films, là, je regardais la cote d'appréciation des experts versus la cote d'appréciation du public. Puis j'étais souvent du côté du public. Là. Mais pour ce qui est des avis Google, il y a tellement de... N'importe qui peut mettre ça. Des fois, ça peut être quelqu'un de la compétition qui s'en va sur votre site puis qui attaque votre site en mettant des avis négatifs pour vous nuire. T'sais. Puis ça, en même temps, c'est pratiquement impossible à retracer. Vous pouvez pas faire enlever ces avis-là qui sont négatifs. J'ai de la misère un peu avec les avis Google. Je regarde pas ça nécessairement. Souvent, exemple, pour un voyage, bien, je vais passer par mon agente de voyage que je connais et en qui j'ai confiance, plutôt que d'aller sur des sites là, pour savoir l'hôtel est coté combien puis c'est quoi les avis Google sur cet hôtel-là. Parce que bien souvent, les gens se plaignent pour avoir des rabais par la suite.
Oui, puis il y a quelqu'un qui me racontait que quand elle allait sur les avis Google, elle regardait juste les avis négatifs. Parce qu'elle estimait que les avis positifs, c'était tous des amis, des chums, des voisins, des etc. Mais en fin de compte, si tu vas juste voir les avis négatifs, tu vas voir aussi des gens qui ne sont pas nécessairement de bonne foi ou des gens, comme tu dis, de la compétition, qui vont rapporter des commentaires fabriqués, qui ne sont pas nécessairement basés sur une expérience concrète et réelle par rapport aux produits offerts. Alors, mais c'est ça. Au fond, la Cour d'appel a dit, on n'embarque pas là-dedans, c'est pas fiable, puis c'est une question de perception, puis donc la Cour d'appel n'accorde pas de crédit aux avis Google, très certainement pas autant que beaucoup de jeunes consommateurs qui, je pense bien, y réfèrent assez souvent, parce que Google même, de ce qu'on me dit, tient compte du nombre de visites sur le site et du nombre de visites sur les avis, et ils vont donner de l'importance au site en fonction du nombre d'avis recrutés aussi. Ce n'est pas juste le nombre de personnes qui vont cliquer sur ton site, c'est aussi le nombre de personnes qui vont cliquer sur les avis. Alors, ça a l'air que c'est considéré de façon significative aussi par Google. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais il reste que je pense que c'est là pour rester, Yannick, hein?
Oh oui, probablement. Maître Bellemare, c'était la dernière de la saison. Je vous souhaite de passer un bel été. Est-ce que vous prenez des vacances au Québec ou vous allez vous exporter ailleurs dans le monde?
Un peu partout. On va se promener cet été. On va essayer d'éviter surtout les canicules. Ça a l'air qu'on nous en promet encore des grosses avec les changements climatiques. On verra bien, mais en tout cas, on va chercher un point d'eau partout où on sera.
Vous allez faire du vélo et affûter votre petit âne là, que je vois. Vous avez commencé déjà à avoir un beau petit âne. Continuez de l'affûter puis on se reparle pour la prochaine saison, Maître Bellemare.
Merci. Bon été tout le monde.
Au revoir. À toi aussi, bye bye. Yannick. Bon été. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. On se reparle demain à la même heure. Salut tout le monde. Bye bye.
Marceau, le soir.
Vous aimeriez vivre l'expérience du Festival d'été de Québec cette semaine? Restez à l'écoute de Gravel dans le retour, parce que vous pourriez gagner une paire de billets avant scène argent
pour assister au spectacle de Muse.
Les plus grands artistes locaux et internationaux en plein cœur de Québec, c'est au FEC que ça se passe.
Du 9 au 19 juillet,
l'été 2026 s'annonce mémorable. Boulevard 102.1 et le Festival d'été de Québec,
heureux de vous faire triper sur les plaines.
Chapeau Ben, des produits de qualité à prix de liquidation. Des nouveautés chaque semaine. Québec, Saint-Georges, Lévis et chapeauben.com. Chapeau Ben, des marchands de bonheur.
Les nouveaux F-150 2026 vous attendent chez Lévis Ford. Des dizaines de camions en stock et des offres qui frappent fort. Jusqu'à 7 000 $ de rabais ou du 0% d'intérêt sur certains modèles. Passez-nous voir dès aujourd'hui. Lévis Ford, les forts de Lévis.
Pour vous gâter avec une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la fromage. Fromagerie Victoria. Avec nos 5 choix de sauces, nos frites fraîches et notre fromage en grains 100% lait provenant des fermes d'ici, c'est la meilleure poutine à Québec. Fromagerie Victoria, familiale depuis 75 ans.
Plongez dans 888casino.net. Parce que c'est fait pour jouer. Cet été, pendant que vous profitez du soccer, découvrez une autre forme de divertissement sur 888casino.net. C'est tout simplement fait pour jouer. Woohoo! 888casino.net. Fait pour jouer. 19 ans et plus, jeu gratuit seulement. Veuillez jouer de façon responsable.
Si comme moi, t'as toujours des questions quand t'es devant le bac de récupération. Qu'est-ce qui va là? Qu'est-ce qui va pas là? Je t'offre un aide-mémoire qui se chante. Contenant, oui.
Bouteille de push-push.
Emballage, oui.
Boîte de pizza.
Imprimé, oui.
Magazine.
C'est juste ça qui va dans le bac bleu, oh yeah. Pour le reste, baby, t'as
juste à consulter bac-impact.ca.
Cette semaine, dans la circulaire Super C, la caisse de 48 canettes de Budweiser est à 72$, puis la caisse de 24 bouteilles de Corona est à 31,85$. Le meilleur coup de l'été, c'est Super C. Valide jusqu'au 24 juin en magasin et en ligne. Détails au superc.ca.
Le point de Max.
Ok, oui, c'est Max. Chaque jour de semaine, 10h, on suit l'évolution des gros dossiers d'actualité du jour. On jase de sport, puis on a du fun. Viens faire un tour.
Le point de Max.
Les 27 et 28 juin prochains, le 28e Gala des belles autodières aura lieu à la polyvalente de l'Ancienne Lorette. Assistez à une exposition de voitures anciennes et classiques et profitez de plusieurs animations sur place. Soyez là les 27 et 28 juin prochains au Gala des belles autodières.
Vous êtes électricien, détenez une licence C, la raffinerie Jean-Gaulin de Lévis recrute. Le 15 juillet en soirée, venez découvrir le poste de technicien en raffinage, un rôle unique qui combine électricité et opération au cœur d'un environnement industriel dynamique. Rencontrez nos équipes, explorez nos installations et voyez concrètement à quoi pourrait ressembler votre avenir chez Valero. Une expérience en industrie est un atout, mais votre motivation à apprendre compte tout autant. Réservez votre place dès maintenant en écrivant à courrier@commercialvalero.com.
Ici Pierre-Luc Funk et je suis fier de vous présenter le grand spectacle de la fête nationale dans la capitale. En direct des Plaines d'Abraham, en compagnie de Lou Adrian Cassidy,